Lisons et méditons ensemble pour nourrir notre foi pour cette semaine, pour les jours que Dieu va nous donner de vivre. Dans les Actes des apôtres, on va relire ce temps qu'ils ont vécu, Ascension, Pentecôte, en retenant un mot ce matin. Et ce mot, il va nous accompagner. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est l'évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Et deux versets dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10. Hébreux, vers la fin du Nouveau Testament, chapitre 10. Et au verset 35. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, une grande récompense. Ceux qui sont dans l'assurance de Dieu, sûrs, persévérants, seront récompensés. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. On arrêtera la lecture ici. Amen. Bénis ta parole, Seigneur, et fais-la descendre au fond de nos âmes et que nous puissions en vivre et changer notre façon de vivre parce que ta parole nous transforme. Amen. Que s'est-il passé, mes frères et sœurs, à Jérusalem il y a 2000 ans, entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte sur les disciples? Il s'est passé deux choses importantes. Il y a eu une attente ils attendaient. Et puis, il y a eu une promesse. S'il n'y a pas de promesse, on ne peut pas attendre. Que voulez-vous attendre si la personne que vous aimez ne vous aime pas, ne vous promet pas de venir? Promesse, c'est un mot important de la Bible. Et ce qui est surprenant, c'est que ce mot promesse n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est un mot qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. À la place, nous avons le mot parler, dire. Parce que quand Dieu parle, il promet, il s'engage, il agit, il dit oui. Chaque parole de Dieu est une promesse, un engagement. Pour Dieu, cela suffit. Et pour nous aussi, on n'a pas besoin d'autre chose. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Quand je lis dans la Bible, le Seigneur parle, le Seigneur dit, il faut que je me dise, c'est sérieux. Dieu a quelque chose à me dire, il va faire quelque chose. Promettre, c'est quand même un mot que nous aimons bien. Promettre, c'est déjà donner pour Dieu. Quand il promet le Saint-Esprit, c'est déjà donner. Promettre, c'est donner la foi pour attendre. Nos paroles à nous ne suffisent jamais. Des gens font des serments, jurent, pour vraiment être cru, être pris sur parole. Nos paroles, on a l'impression que ça suffit jamais. Il faut, quand on va chercher quelque chose à la poste, une double carte d'identité, il faut un visa, des passeports, des titres de séjour, des empreintes digitales. On ne nous croit pas, sur parole. Ça, c'est l'esprit du monde. Mais dans l'Église, le Seigneur veut rétablir la confiance. Il veut rétablir la vérité. Et il dit, que votre oui soit oui. Ne mentez pas les uns les autres. Chacun rendra compte de ses paroles devant Dieu. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Il faut qu'on s'habitue à avoir un langage clair et vrai. Quand Dieu parle donc, il s'engage. Le plus bel exemple, c'est la promesse qu'il a faite à Abraham. Abraham, un vieillard sans enfant, un vieillard sans terre. Le Seigneur lui promet une famille nombreuse et tout un pays où coule le lait et le miel. Devant cette promesse, que fait Abraham? Il fait comme nous. Il attend que les cigognes lui apportent des petits-enfants. Parce que vous savez que les cigognes apportent les enfants? Vous ne saviez pas? Il attend que les cigognes amènent les enfants promis par Dieu. Il attend que le facteur livre un colissimo de la terre d'Israël. Non, bien sûr. Abraham, quand il entend la promesse de Dieu, il se met en route. Il accomplit la volonté de Dieu. Il va quitter ce pays si riche, si beau, si confortable, pour aller dans un pays inconnu, vivre sous une tente, dans une cabane, parce qu'il croit dans la promesse de Dieu. Et Abraham, pendant des années, 25 ans, il va préparer son cœur, il va prier, il va s'approcher de Dieu. Il ne sait pas comment ça va se faire, parce que plus il prend d'années, et moins il est capable d'avoir des enfants. Et voilà, la promesse est réalisée, vous le savez. Dieu tient parole. Et l'exemple d'Abraham, c'est de nous dire, persévérez, faites confiance, les promesses pour vos enfants s'accompliront. Les promesses pour votre avenir s'accompliront. Mais la plus grande des promesses, c'est la vie éternelle donnée par Jésus-Christ. Amen. C'est la plus belle des promesses. Et Jésus nous fait la promesse de nous préparer une place auprès de son Père, et j'y crois aussi. Amen. Et il nous fait la promesse de nous donner le Saint-Esprit qui habitera en nous. Amen. Et il nous fait la promesse que nous bâtirons l'Église avec lui. Et il nous fait la promesse que cet Esprit qui est en nous nous rendra la vie à notre corps mortel à la résurrection. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis, signature de Jésus. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Il faut que ce matin, devant tous les besoins que nous avons ensemble, dans l'Église, dans la famille, dans le travail, nous puissions écouter les promesses de Dieu. À la Pentecôte, le Seigneur leur avait dit, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, restez bien ensemble et attendez ce que le Père a promis. » Et le Saint-Esprit est venu. Et depuis, le Saint-Esprit est sur la terre. Il n'a pas quitté la terre, sinon il n'y aurait plus de monde. Mais chacun de nous doit le demander à Dieu, doit le rechercher, doit en être rempli. Seigneur, ce matin, remplis-nous du Saint-Esprit. Amen. Et avec ce Saint-Esprit, il y a encore des promesses. Vous serez mes témoins, vous serez des pêcheurs d'hommes. Connaissez les poupées russes? Dans une poupée russe, il y a toujours une autre poupée, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et dans la promesse du Saint-Esprit, il y a d'autres promesses. Nous parlerons de nouvelles langues, nous ferons des prodiges, des miracles, et nous évangéliserons le monde. Mais que faut-il faire? C'est surtout cela que j'aimerais vous dire en quelques minutes. Que faut-il faire devant les promesses du Seigneur? Jusqu'à la fin, il faut tenir bon. Il ne faut pas se relâcher. Vous demandez quelque chose pour votre mari inconverti, pour vos enfants inconvertis. Vous demandez à Dieu pour votre travail. Il y a des promesses dans la Bible pour les enfants de Dieu qui ne sont pas orphelins dans le monde, livrés à tous les hasards. Il faut que les promesses, nous puissions les serrer dans notre cœur sans nous relâcher. Il faut imiter tous ceux qui, avant nous, ont entendu les promesses de Dieu et les ont gardées et ont hérité des promesses parce qu'ils avaient la persévérance. C'est le plus difficile, la persévérance. 25 ans, Abraham. Attendre, comme les apôtres qui attendent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit à un certain moment, « Bon, mes frères, voilà 3 jours que nous sommes là pour rentrer, pour revoir nos femmes quand même et nos enfants. Ça fait 3 jours qu'on est là, on n'a rien reçu. » Ils n'ont pas dit, « Allez Pierre, on va repartir chez nous. » Ils sont restés parce qu'il leur avait dit, « Jusqu'à ce que vous receviez. » Ils sont restés dans la persévérance. Si on n'attend pas, on s'exclut de la promesse. Nos enfants n'hériteront pas des promesses, nous non plus. Si on n'attend pas, on s'exclut. Si on ne persévère pas, nous n'obtiendrons pas. Jésus a mis de la boue sur les yeux d'un aveugle, vous le savez. Et il a dit à l'aveugle, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Et l'aveugle a fait tout ce chemin. Sans savoir la suite, Jésus ne lui a pas dit « tu auras la guérison », mais il a ressenti qu'il y avait dans la parole de Jésus une promesse. va te laver et tu verras clair. » Et en cours de route, il aurait pu dire, « C'est ridicule, la boue sur mes yeux. » Des amis auraient pu lui dire, « Rentre chez toi, tu as l'air d'un pitre, d'un clown. » Il a continué, il a persévéré. Et quand il est arrivé à tâtons, peut-être, au réservoir de Siloé, il a mis l'eau sur son visage. Et voilà qu'il a recouvré la vue, parce que la promesse s'est réalisée. Il faut s'encourager, frères et sœurs, mutuellement. Il faut s'exhorter les uns les autres pour persévérer, continuer, pour accomplir ce que Dieu nous dit. Ça ne vient pas en dormant. Il est dit, d'abord, accomplissons la volonté de Dieu, en attendant la promesse, en attendant qu'elle se réalise. Purifions-nous des souillures du corps et de l'âme. Retrouvons la prière, retrouvons les Écritures, apprenons à pardonner, à nous réconcilier. On attend une promesse, elle ne tombera pas sur des gens païens, impies. Elle tombera sur des gens qui se mettent à chercher, on l'a lu, la volonté de Dieu, qui accomplissent la volonté de Dieu. Et quand vous aurez remis de l'ordre dans votre vie, réconciliez-vous avec votre femme, avec vos enfants, vos parents. Quand vous aurez remis de l'ordre dans votre vie, il faudra encore persévérer pour obtenir ce qui est promis. Amen. Mais la persévérance pour Dieu est d'un grand prix. Je vais vous donner un exemple. Il y a longtemps de cela, Dieu avait dit à Israël, à Moïse, « Je vous ferai monter dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. Vous ne resterez pas dans l'esclavage de l'Égypte à ne plus pouvoir dormir, à ne plus pouvoir profiter de vos enfants. Je vous ferai monter dans un bon pays. » Et quand le jour fut arrivé, vous savez ce qu'il faisait ? Il ne jouait pas aux billes, il ne s'amusait pas à chercher une femme ici ou un homme là-bas. Ils étaient tous ensemble dans les familles, réunis. Ils mangeaient la Pâque, ils mangeaient l'agneau. Ils étaient prêts. Leurs souliers étaient aux pieds, bien lacés, bien ficelés. Ils avaient le bâton à la main. Ils avaient ceinturé leurs reins pour démarrer le grand voyage. Ils se sont préparés. Ils mangeaient debout. Et puis, ils ont mis la pâte du pain dans leurs vêtements. Ils ont mis les pétrins, c'est-à-dire les corbeilles où l'on fait le pain. Ils ont mis le pétrin dans leurs vêtements. Ils étaient chargés. Ils étaient prêts à partir pour que la promesse se réalise de quitter l'Égypte. Et puis, ils ont commencé à rassembler tous leurs troupeaux de bœufs. Ce n'est pas simple de rassembler 300 bœufs, 10 000 brebis. Ils ont rassemblé leurs troupeaux, ça a pris du temps. Ils ont rassemblé leurs cheptels. Et puis, le Seigneur leur a dit, « Avant de partir, vous irez chez vos voisins, vous irez chez les voisines, et vous demanderez à vos voisins, les Égyptiens, quoi ? Des vases. » Des vases, des vases d'or, des vases d'argent, des vêtements, beaucoup. Mais Seigneur, mais on va partir quand ? Ils ont fait cela. Et peut-être, il est dit, au milieu, jusqu'au milieu de la nuit. C'est quand le milieu de la nuit ? 2 heures du matin ? 3 heures du matin ? Et les enfants devaient dire, « Papa, je suis fatigué, je veux rentrer regarder la télé. » Mais là, il fallait rester debout et manger, et prêt, et se préparer à partir. Et ils sont partis, et la promesse s'est réalisée. La mer Rouge s'est ouverte devant eux. Ils avaient leurs enfants, personne ne manquait, les grands, les petits, les personnes âgées, les malades. Ils avaient leurs troupeaux, leurs vases, parce que les Égyptiens étaient tellement contents de les voir partir. Ils ont dit, prenez tout ce que vous voulez, mais partez, on ne veut plus vous voir, prenez nos biens, notre or, notre argent, nos cadillacs, prenez tout ce que vous voulez. Et ils sont partis riches pour construire la maison de Dieu, le tabernacle. La promesse s'est réalisée parce que Dieu l'avait dit et parce qu'ils se sont préparés. Ils ne s'étaient pas éparpillés. Si le Seigneur tarde dans votre vie, ben c'est vous qui dites ça. Le Seigneur ne tarde pas. C'est écrit dans la Bible. Mais s'il vous semble que le Seigneur tarde, ne pensez pas que Dieu soit devenu faible, incapable, de mauvaise humeur, que Dieu vous reproche quelque chose. Si même vous deviez attendre 40 ans, ce qui ne sont pas finis, hein, ça va durer longtemps le voyage. Croyez que la promesse s'accomplira. Amen. Ils ont dû dire, en traversant la mer Rouge, dans une semaine, nous sommes tous chez nous. On va manger sous notre figuier, on va aller cueillir le bon raisin. Dans une semaine, nous sommes chez nous. Il fallait 10 jours en tout, 10 jours. Et voilà que ça a pris des années. Mais Dieu n'a jamais changé. Et ce qu'il a promis pour Israël s'est accompli. Amen. Et ce que Dieu a prévu pour moi s'accomplira, et pour vous aussi. Amen. Il donnera ce qu'il a promis. Parce que il s'est engagé par serment. Vous connaissez la parole ? Il a juré. Moi, je ne jure pas. Je dis, Seigneur, oui, c'est tout. Hein ? On ne va pas dire, oui, je jure que c'est vrai. C'est vrai, puis c'est tout. Dieu a juré. Comme si Dieu voulait enlever tous nos doutes. Parce que si Dieu jure par lui-même, cela veut dire que c'est impossible que Dieu mente. Même si ça dure. Moi, j'attends des choses depuis près de 40 ans, vous ne le savez pas. Même si ça dure. Mais ce qu'il a promis s'accomplira. Parce que Dieu ne peut pas changer. Et pour moi, le fait que Dieu ait juré et que Dieu ne peut pas changer, c'est un puissant encouragement. Dieu disait à Israël, si la lune, le soleil, le jour, la nuit, si tout peut être changé, alors moi je peux changer aussi. Mais avez-vous remarqué que ça ne change pas beaucoup ? Les jours, les nuits, les jours, les nuits, les jours, les nuits. Frères et sœurs, devant cette promesse, Abraham avait la conviction, à 99 ans, la conviction qu'il aurait un enfant. Bravo, monsieur Abraham, bravo. Extraordinaire. Qui a 99 ans parmi nous ? Il avait la conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Oui, votre enfant peut revenir. Oui, votre enfant peut guérir, se rétablir, parce que Dieu fait des promesses. Et il nous donne une garantie. Quand il fait une promesse, il nous donne le Saint-Esprit comme un sceau, comme dire « promis ». Moi, j'ai connu, quand j'étais pasteur à Évreux, j'ai connu une dame qui était très âgée et qui avait connu dans son enfance l'empereur François-Joseph. Je n'ai pas été vérifié, c'était une Autrichienne. Et cette dame très âgée me disait souvent, pour me dire quand Dieu promet, c'est vrai, elle me disait quand l'empereur François-Joseph mettait son sceau, vous savez, son sur un document, oui, c'était oui. Et Dieu nous dit par le Saint-Esprit, oui, je promets de te bénir et de te conduire, et c'est oui, amen. Une promesse, c'est comme un héritage dans la Bible. Un héritage, on ne peut pas le gagner, on ne peut pas le mériter, ça se reçoit. Même si on n'est pas digne, même si on est un enfant indigne, quand le notaire nous dit, monsieur, vous êtes héritier de votre père, voici ce qu'il vous a légué. Eh bien, l'héritage, c'est gratuit, c'est pour vous. et le Seigneur nous fait un héritage de promesses. Ne doutons pas, ôtons les doutes de nos cœurs. Si nous doutons, nous mettons une ombre sur Dieu, en disant « Dieu, il a changé, c'est plus comme avant ». C'est un péché de dire ça. Nous mettons une ombre sur Dieu. Et si nous doutons, les promesses qu'il nous a faites ne s'accompliront pas chez nous ni chez nos enfants. Parce que les parents, c'est le fil conducteur des promesses pour les enfants. La promesse est pour vous et pour vos enfants, parce que vous le direz à vos enfants. Mais si on doute, vous ne direz rien à vos enfants. C'est grave. Alors, concluons avec quelques promesses. J'aime les promesses de Dieu. Et vous ? Le Notre Père, ce ne sont que des promesses. Promesses de régner sur nous, sur nos peurs, nos ombres. Promesses de nous donner le pain quotidien. Promesses que Dieu fera en nous tout ce qu'il veut, toute sa volonté. Promesses de nous délivrer du mal. Promesses de ne pas nous laisser entrer dans la tentation qui est un filet mortel. Et quand on lui dit « Notre Père, donne-nous notre pain de ce jour », en fait, on ne fait que de lui demander ce qu'il veut nous donner. Les promesses, ce n'est pas là pour faire pression sur Dieu. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on pense qu'on fasse pression sur Dieu, que l'on contraigne Dieu. Dieu est un bon Père qui donne de bonnes choses. Un jour, quelqu'un me disait, j'ai serré les poings contre Dieu et puis j'ai réussi. Dieu n'est pas un boxeur. On n'a pas de... La promesse, ce n'est pas une pression. La prière, ce n'est pas une pression. Mes frères et sœurs, écoutez, lisez bien la Bible et vous trouverez des centaines de promesses qui vont correspondre à votre vie. Êtes-vous dans une détresse aujourd'hui ? Vous êtes mal dans votre cœur, dans votre foyer. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Psaume 46. Vous sentez-vous seul ? Seul devant l'immensité, vous ne priez même plus. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Évangile de Jean. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Si vous croyez, vous avez le Saint-Esprit déjà qui agit en vous, qui bouillonne en vous. Et Jésus dit, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur éternellement avec vous. Amen. Je ne sais pas comment où aller, que faire. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi chaque jour, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et ces promesses, il faut les serrer dans notre cœur, les relire, les écrire sur votre cahier. Il faut retourner à l'école. Et ces promesses, il faut les attendre chaque jour. Il y a des prières que je fais et je dis au Seigneur, « Avant ce soir, Seigneur, je t'attends. » Tous les jours, je dis ça. « Avant ce soir, je t'attends. » Et vous allez me dire, « Eh bien, finalement, ça ne marche pas. » Oui, chaque jour, je rencontre le Seigneur. Amen. Je pense qu'on a besoin de retrouver un grand amour entre les hommes et les femmes, les maris et les femmes, pardon. Un grand amour avec les enfants dans l'Église. Dieu a fait des promesses. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous donnera la puissance d'aimer. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Merci pour tes promesses qui nous permettent d'espérer, qui nous permettent d'attendre, qui nous permettent de croire dans le meilleur pour nous, nos familles, nos enfants, ton Église, nos santé. Merci pour tes promesses de la Pentecôte. je vous enverrai le Saint-Esprit. Et merci pour la promesse de ton avènement. Ce même Jésus que vous avez vu partir au ciel viendra de la même manière. Seigneur, viens dans ton Église, accomplis tes promesses en moi, en chacun de mes frères et de mes sœurs. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.